Il est 19h passé de 3 minutes, vous écoutez bien le direct d'anniversaire de Transistor et je dois vous annoncer un petit changement de programme puisque nous nous attendions à une émission de cinéma mais nous allons plutôt parler de philosophie avec cette émission qui est née cette année en partenariat avec les médiations philosophiques Indiscipline. Bonjour Céline.
Bonjour Robin, rebonjour à tous.
Depuis 10 ans, je fais le clown. Et vous savez bien, c'est pour ça que vous venez très nombreux, c'est du spectacle. Je parle devant la moitié d'humains et la moitié de magnétophones.
Tu pipotes pas un peu, toi ?
Ben jamais je pipote.
Indiscipline.
Je souscris tout à fait à la notion d'indiscipline qui ne consiste pas du tout à supprimer ou mépriser les disciplines où les gens définissent un périmètre et creusent ce périmètre avec un certain nombre de méthodes, mais qui consiste à dire en plus des disciplines, il faut adopter une attitude et des pratiques qui questionnent toute frontière disciplinaire.
Bienvenue dans ce deuxième numéro d'Indiscipline, l'émission qui pense l'actualité sous la forme d'un abécédaire indocile avec le secours des sciences humaines. Nous avions ouvert notre abécédaire par le verbe désobéir et aujourd'hui, après nous être intéressés au délit d'hospitalité, ce nouvel épisode va explorer ce que notre invité du jour a appelé la démocratie protestataire. Pour réfléchir avec nous, en effet, j'ai le très grand plaisir d'accueillir un sociologue, directeur de recherche au CNRS et membre du centre Max Weber. Lilian Mathieu, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de diffuser un peu son travail.
Alors Lilian Mathieu, vous êtes spécialiste des mouvements sociaux et de la prostitution. Vous avez notamment publié plusieurs ouvrages où vous étudiez donc ces phénomènes contestataires et les pratiques militantes, notamment « Comment lutter ? Sociologie et mouvements sociaux » paru en 2004, « La démocratie protestataire » paru en 2011 aux presses de Sciences Po, sur lequel nous nous sommes beaucoup appuyés pour préparer l'émission, et enfin « L'espace des mouvements sociaux » aux éditions du Croquant en 2012. En tant que sociologue, donc, vous dressez le portrait d'une démocratie réactive, protestataire, insoumise et conflictuelle. Et pour commencer cette discussion, on va partir en fait d'un cas concret, du témoignage d'une étudiante qui a participé à l'occupation de l'Amphicé à Bron. C'était il y a maintenant 2 semaines.
Je m'appelle Naïda, je suis étudiante en sciences politiques à Lyon 2. Je suis syndiquée du coup au syndicat solidaire étudiant Lyon. Donc du coup, bien sûr, le syndicat soutient cette action et fait au mieux pour mettre des outils à disposition. À la base, on essaie de créer un mouvement par rapport à la réforme de l'enseignement supérieur, par rapport au gouvernement Macron et à la loi travail, et que ça rentre dans une problématique plus globale de lutte contre le capitalisme et le système actuel. Du coup, on essayait de mobiliser sur la fac par le biais de plusieurs mouvements. Par exemple, on avait mis en place une cantine solidaire tous les lundis. Après, on participait aux manifs, on faisait des AG, etc., des AG de mobilisation. Et en fait, un jour, il y a eu l'expulsion des sans-papiers et des migrants, migrantes de la Part-Dieu. Et on a organisé du coup un banquet sur la fac pour les accueillir. Et en fait, ça a duré tard dans la soirée et on s'est dit, nous on va rentrer chez nous, mais eux, ils vont rentrer où ? Et du coup, on a occupé l'amphi dans laquelle on était déjà. Et on a dit, on reste là ce soir et on leur offre un logement. Et après, par l'appel de dons, etc., on a réussi à en accueillir plus et dans de meilleures conditions. Moi, personnellement, c'est pas ma première expérience, non. Ça avait déjà commencé au lycée. Quand j'étais en terminale, il y avait des étudiants et des étudiantes qui étaient sous le coup d'une OQTF, d'une obligation de quitter le territoire français. Et du coup, je m'étais politisée et, on va dire, radicalisée dans ma lutte à ce moment-là. Je pense que le mouvement de la loi travail... c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté, ouais, politiquement. Ouais. C'est quand même le plus gros mouvement social que j'ai vécu dans ma petite vie. Je mettais beaucoup d'espoir dans ce mouvement. Du coup, c'est vrai que j'ai été beaucoup déçue quand il est retombé. Je trouve que ça a été vraiment une période de conjoncture des luttes et qui aurait pu vraiment apporter plein de choses, comme par exemple Nuit Debout, qui est vraiment... j'ai trouvé que c'était une bonne initiative, qui à la fin pouvait être un peu dépolitisée, ça m'a ouvert de nouvelles perspectives, ça m'a un peu plus radicalisée du coup dans ma façon de lutter et dans ma façon de penser politiquement.
Alors, vous avez écouté Naïda, une étudiante qui a contribué et contribue toujours à l'occupation d'un amphi à l'Université Lumière Lyon 2, en solidarité avec des réfugiés sans-abri abandonnés par les services de l'État. Ce parcours de militante d'un syndicat étudiant donc à l'occupation musclée d'un amphi, qui fait, selon ses propres termes, converger les luttes entre défense des réfugiés et contre les politiques néolibérales appliquées à l'université. Ce parcours donc, Lilian Mathieu, à vos yeux de sociologue des mouvements sociaux, est-ce qu'il est atypique ou bien alors il suit des schémas bien connus en sociologie ?
C'est la seconde réponse qui est la bonne, c'est-à-dire c'est un profil, un parcours qui est assez classique d'un engagement assez tôt, une sensibilisation avec quelque chose de très concret, ce qu'elle évoque, une mobilisation au moment du lycée autour du cas de camarades qui risquent une expulsion, qui est une première expérience qui permet de se familiariser avec les formes de la contestation collective, avec son discours, avec ses pratiques. Et qui, par la suite, c'est quelque chose qui apparaît d'intéressant, de stimulant, comme une motivation. Et lorsque le contexte offre des opportunités de poursuivre cette activité, comme la loi travail, eh bien, on s'y engage, on y apprend encore plus de choses, on se familiarise encore davantage avec ce registre de participation politique et on acquiert aussi, je pense que c'est intéressant, le fait d'essayer d'articuler des enjeux qui sont pourtant assez éloignés de la loi de travail de l'an dernier et puis celle de cette année, la question des politiques d'immigration et la question de la réforme de l'université. Mais manifestement, il y a un cadre de perception, d'interprétation du monde politique qui entoure cette étudiante et auquel elle parvient à donner sens, à donner cohérence. Le fait d'appartenir à un syndicat, évidemment, est aussi un des paliers dans l'engagement dans une carrière de militante. Alors, manquerait peut-être à cet entretien des données qui intéresseraient le sociologue, qui serait de savoir quel est le rapport à la politique et aux activités militantes de la famille, parce qu'on sait que les phénomènes d'héritage, de disposition à l'engagement sont extrêmement fréquents.
Justement, face à un discours de militants, de militantes comme ça, vous, en tant que sociologue, quel type d'approche vous allez tout simplement prendre ? Quelle distance, quel questionnement vous allez vous poser face à un discours comme ça ?
Alors moi, d'une part, je suis plutôt un adepte des démarches, des méthodes qualitatives. Donc l'entretien fait partie de mes outils privilégiés. Et l'entretien, parce que je suis extrêmement sensible aux effets de socialisation, d'apprentissage, d'acquisition des dispositions et des compétences pour cette activité particulière qui est la contestation collective. Les récits de vie ou les entretiens biographiques sont pour essayer de repérer justement des sites, des moments de particulière sensibilisation à ces enjeux. Et là, une nouvelle fois, l'expérience au lycée, alors il faudrait voir aussi quels sont les réseaux de sociabilité qui font qu'on va rejoindre, pas forcément par intérêt ou par conviction pour la cause, mais parce qu'il y a des amis qui y vont et ça a l'air d'être intéressant et on y éprouve une satisfaction, un plaisir, différentes formes de gratification à s'engager dans ce type d'activité. Donc mettre en lumière tous ces éléments à la fois qui tiennent à l'histoire personnelle, au parcours de la personne et au contexte dans lequel elle va commencer, continuer, persévérer à être un ou une militante.
Est-ce que c'est nouveau en sociologie d'essayer comme ça de chercher aussi à interroger les émotions que les individus ressentent quand par exemple ils sont en train de manifester ? Parce qu'évidemment on n'est pas simplement dans la protestation, on est aussi dans un espèce de partage collectif, dans une sorte de fête aussi, parce que c'est ça. Est-ce que ça vient, est-ce que c'est nouveau tout simplement et d'où ça vient cette approche aussi ?
Alors, je dirais qu'il y a certaines sortes de revival de l'étude des émotions dans l'étude des mouvements sociaux. Pendant très longtemps, on s'est méfié de l'approche par les émotions parce que ça renvoyait aux théories de la fin du 19e siècle, comme celle de Gustave Le Bon et sa psychologie des foules, et de toute une tradition sociologique ou parasociologique qui renvoyait les contestataires à une forme d'irrationalité, à un déficit d'intégration sociale, à des sentiments désagréables de frustration relative. Pendant très longtemps, on va dire, depuis les années 60-70, c'est un modèle très utilitariste d'acteurs rationnels qui cherchent à maximiser ses intérêts qui guideraient son engagement dans de l'action collective. Depuis, je dirais, une quinzaine d'années, effectivement, les émotions sont redevenues un thème et un questionnement porteur dans l'étude des mobilisations.
Alors, on l'a entendu également de la part de Naïda. Pour elle, l'État clairement dysfonctionne au regard notamment de la question des réfugiés sans-abri. Est-ce à dire donc que la protestation aurait une sorte de fonction critique en démocratie, comme si elle tendait à nos gouvernants le miroir de leur manquement ?
Alors, je serais oui, mais je mets en garde avec beaucoup de... Il y a plein de signaux qui est d'alerte qui, quand on utilise le terme fonction, c'est-à-dire qu'on présuppose une fonctionnalité, une stabilité de nos systèmes politiques. C'est le fonctionnalisme, il a perdu beaucoup de son crédit sociologique depuis son époque glorieuse des années 50. On en retrouve des traces sans doute un peu inconscientes chez un auteur comme Rosan Vallon dans La contre-démocratie. Tout n'est pas fonctionnel dans la vie sociale, c'est même très rarement le cas, et on est davantage, me semble-t-il, dans des logiques de rapports de force, d'intérêts qui s'affrontent, de pouvoirs qui se confrontent. Alors oui, les mobilisations sont... contribue en tout cas à faire émerger, à rendre public un certain nombre d'enjeux qui sont sous-estimés ou ignorés ou mal traités par les pouvoirs publics. En déduire une fonctionnalité me paraît hasardeux, parce qu'on a aussi beaucoup de revendications tout à fait pertinentes, légitimes, qui sont exprimées par les voix de la protestation collective et qui sont méprisées, ignorées ou réprimées par les États.
Justement, vous venez parler de rapports de force, de rapports de pouvoir. Pourquoi est-ce qu'à un instant T, une minorité serait-elle plus légitime que la majorité qui, elle, a joué le jeu de la représentation, du vote, bref, du système démocratique? Pourquoi est-ce qu'une minorité qui vient, qui prend ce rapport de force, qui prend la rue, qui est parfois violente, quelle légitimité?
Alors déjà, il faudrait interroger majorité-minorité. Majorité, lorsque les taux d'abstention sont particulièrement élevés, majorité à condition de ne retenir que les suffrages exprimés, ce qui est, et d'ignorer du coup tout un ensemble de personnes qui, pour des raisons extrêmement hétérogènes, par sentiment d'illégitimité politique ou au contraire de sentiment que dans le jeu politique tel qu'il existe, ils ne peuvent pas s'exprimer de manière favorable, conforme à leurs souhaits. C'est une première difficulté. Minorité, lorsque on s'intéresse au recrutement du personnel politique, on peut se dire que les représentants sont aussi minoritaires, socialement, sur le plan du genre, sur le plan de la génération, sur le plan d'un ensemble de capitaux. Donc la question peut aussi être renvoyée de ce point de vue-là, du point de vue de la représentation politique. Et puis, minorité, oui, sans doute, mais lorsque ce sont des fractions extrêmement significative d'un groupe donné qui se mobilise contre une mesure, par exemple politique, qui les affecte directement, cette minorité, elle doit être pondérée. D'ailleurs, si vous avez une majorité des étudiants qui se mobilisent, c'est pas la majorité de la population, mais si c'est contre une réforme de l'université, on peut moins les disqualifier leurs revendications de ce point de vue-là.
Alors, pour continuer de parler de ce que vous avez appelé la démocratie protestataire, on va écouter un autre montage sonore de quelques faits qui ont émaillé l'actualité sociale récente.
Par rapport aux indignés, on a quand même une expérience qui date depuis 2011. Et c'est vrai qu'on tourne pour deux raisons. La première, c'est par rapport au pouvoir. Pour ne pas garder le pouvoir sur des yeux qui se briquent sur une personne, on tourne.
Bon, ça fait 6 jours que je viens ici et c'est la première fois aujourd'hui que j'arrive à faire quelque chose de concret. Entre autres, ce matin, donc, on a fait un atelier mégaphone. Il y a mon camarade qui travaille avec moi qui l'appelle l'atelier porte-parole.
Nous avons des bidons d'essence qui se trouvent en dessous les presses automatiques et qui sont prêtes à être vidées au niveau des aménages de pièces. Il y a une cellule robotisée qui a été écrasée ce matin et un outil des constructeurs automobiles qui viennent d'être découpés au chalumeau tout à l'heure. En nous, il y a les moyens encore de travailler sur le site de la souterraine, il y a d'énormes compétences et de connaissances, et surtout quand on voit les bénéfices qu'ont fait PSA et Renault, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde.
J'ai pas encore les chiffres, donc moins de monde que quand. Je crois qu'il y en a plus que le 19 octobre, donc vous voyez, c'est plutôt bien. Après, si votre question c'est pourquoi il n'y a pas plus de monde et pas assez de monde, je suis d'accord avec vous, ça veut dire qu'il faut continuer. Mais vous savez bien que le monde du travail a un peu changé, que les principaux, parmi les principaux concernés, les précaires, par exemple, les privés d'emploi, eh bien c'est, il faut aller les trouver là où ils sont. Les précaires, pour faire grève, déjà pour signer une pétition, c'est pas facile, alors pour faire grève, c'est encore plus compliqué. Voilà, il faut qu'on prenne en compte, et c'est ce que fait la CGT, la diversité du monde du travail.
Pour l'instant, c'est lui qui a le poids. Voilà la situation. Bon, on peut espérer reprendre le point. Et c'est clair que vous avez raison de pointer la question de la jeunesse. C'est clair que si la jeunesse se met en mouvement, ça y est, c'est parti, non ? Mais c'est pas le cas.
Alors des indignés à nuit debout aux salariés de GMS qui se battaient pour empêcher la fermeture de leur usine et le licenciement des ouvriers, de Philippe Martinez qui reconnaît la faiblesse du mouvement de grève, à Jean-Luc Mélenchon qui admet que Macron a le point. C'était un tour très rapide, subjectif et sélectif de faits qui ont attiré notre attention et qui semblent en un sens aussi démontrer un essoufflement peut-être de la démocratie contestataire, peut-être aussi en conjonction avec l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir et de sa fameuse méthode de concertation. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, Lilian Mathieu ? Y aurait-il un essoufflement en ce moment de la protestation ?
Non, quand on me pose ce type de questions, je renvoie toujours au vœu du général de Gaulle le 31 décembre 1967, où il se dit très confiant pour l'avenir du pays, et il cite Verlaine, « La vie est là, simple et tranquille ». Et puis quelques mois plus tard, bah, c'était nettement moins tranquille. Les approches en termes de cycle, en termes de montée en puissance, d'essoufflement, etc., sont souvent très mécaniques et ignorent qu'il y a, ou sous-estiment qu'il y a aussi du hasard dans l'histoire, c'est-à-dire que les événements, ils sont tramés, ils sont produits d'une multiplicité de causes, y compris de petites causes qui peuvent avoir de grands effets. Et donc, on ne peut pas prévoir à l'avance si une mobilisation va prendre ou pas. Bon nombre de mouvements sociaux d'ampleur de ces dernières années ont commencé très modestement. Et puis, voilà, il y a un ensemble de conjonctions qui font que ça prend ou ça ne prend pas. Alors, il y a des logiques très conjoncturelles, il y a aussi des logiques structurelles, c'est évident. Ce que disait Philippe Martinez était extrêmement pertinent, c'est-à-dire que mobiliser le monde du travail aujourd'hui, lorsque un très grand nombre de salariés sont dans des contrats à durée déterminée, à temps partiel, travaillent dans des petites entreprises. C'est aussi une des grandes différences par rapport à il y a une cinquantaine d'années où on avait de très grandes entreprises où les syndicats étaient implantés de longue date, où ils avaient une capacité de mobilisation, même s'il ne faut pas la surestimer, mais en tout cas, ils étaient présents dans la plupart des PME qui en fait, sont des sous-traitants des grandes entreprises, hein, mais on a une transformation de l'organisation des entreprises. Il est très clair que le premier salarié qui prononce le mot syndicat, on lui indique la porte très, très rapidement, surtout s'il est en CDD. Donc voilà, il y a un ensemble de facteurs, mais prédire un essoufflement ou une reprise de la combativité sociale, je laisse ça aux astrologues et ce n'est pas du domaine de la sociologie.
Mmh. En termes d'échelle structurelle également, est-ce que l'échelle européenne, précisément, ne complique pas, ne freine-t-elle pas le rapport de force qui peut exister entre des mouvements sociaux et tout simplement les gouvernants, puisqu'on sait que beaucoup de décisions aujourd'hui ne sont plus prises à Paris, mais à Bruxelles ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les gouvernements intègrent dans le droit national des directives, des nouvelles règles qui sont décidées au niveau européen. Et du coup, c'est très difficile de se mobiliser pour atteindre, entre guillemets, le véritable adversaire. Il y a eu des tentatives de mobilisation à l'échelle européenne, notamment au niveau syndical, mais il est vrai que c'est... Là aussi, il est question de rapports de forces sociaux, les compétences, les ressources nécessaires pour faire se mobiliser à l'échelle européenne telle ou telle catégorie de population, de travailleurs ou de n'importe quel groupe, sont très inégales et ça va en défaveur des protestataires.
On l'a aussi entendu dans le montage, la protestation peut passer par la violence. Alors, on pense aux occupations d'entreprises et d'usines, aux menaces de destruction des outils de production, voire même au suicide sur les lieux de travail qui peuvent être considérés comme une manière de protester. Et la violence de certains phénomènes sociaux, justement, est-ce que ça n'est pas d'abord plus ou moins en danger leur légitimité? Et puis, on a l'impression aussi qu'ils deviennent quand même de plus en plus fréquent. On pense aussi à ces séquestrations de patrons, tout simplement. Qu'est-ce que ça dit aussi de la période dans laquelle on vit?
Alors, pour ce qui est des séquestrations, je ne pense pas que ce soit vraiment... Il y a eu aussi une redécouverte de cette forme d'action ces dernières années. C'est une forme d'action qui était quand même plus fréquente dans les années 70. Donc, je dirais que la violence n'est pas forcément du côté des protestataires en premier lieu. Ce à quoi on assiste, par contre, c'est des modes d'encadrement et de gestion policiers des protestations publiques et spécialement des manifestations qui produisent en tout cas davantage de tensions. Conduisent à davantage de blessures du côté des manifestants bien avant que ce soit du côté des policiers, avec les flashballs, avec les tasers, avec, on a vu ces dernières années le nombre de personnes qui perdent un œil, qui sont grièvement blessées dans le cadre de manifestations. Donc il y a, alors que depuis, je dirais, 68, la logique était plutôt à l'éloignement des protestataires, avec du lacrymogène, avec les pompes à eau. Donc voilà, on tenait à l'écart les protestataires. On cherchait moins à s'attaquer individuellement à des protestataires. Je dirais l'un des tournants, ça a été quand même la mobilisation étudiante de 1986 avec la mort de Malik Houssekine, où on a dissous le corps des voltigeurs qui étaient des policiers à moto, avec un qui conduit et l'autre derrière avec un bâton qu'on appelait un bidule et qui tape en passant rapidement sur des manifestants. Ça, c'était cette attaque individualisée de la part de la police était tombée en désuétude, et avec les tirs de flashball, avec un ensemble de techniques policières, aussi avec l'évolution de l'équipement et de la stratégie policière, on retrouve ça. Et je pense que c'est assez inquiétant parce que c'est véritablement une stratégie de l'attention. Les logiques aussi d'enfermement, de blocage, de petits groupes de manifestants pour faire monter l'attention ne vont pas dans le sens de... mais évidemment, qui contribuent à disqualifier les mobilisations lorsque les protestataires passent eux-mêmes à la violence.
On l'avait aussi entendu de la part de Naïda, qu'on a écouté en début d'émission. Elle mentionnait le mouvement Nuit Debout, donc, qui avait été déclenché le 31 mars 2016. De votre point de vue de sociologue, est-ce que c'est un moment important? On a vu beaucoup de préoccupations finalement converger, beaucoup de personnes se mobiliser, qui n'étaient pas forcément au départ des personnes qui descendent dans la rue et se mettent à faire la grève ou à protester. Et puis on a vu aussi des intellectuels, notamment Frédéric Lordon du Monde Diplomatique ou les Pinson Charlot, qui se sont mis de nouveau à parler, à écrire beaucoup. Comment est-ce que vous envisagez ce moment?
Alors, ça a été un moment d'expression démocratique important avec beaucoup de démocratie protestataire, justement, de remettre en cause les logiques de la délégation par ce qui apparaît comme une oligarchie politique, avec beaucoup de réflexions et de mise en pratique de dispositifs qui se veulent davantage égalitaires, démocratiques, qui veillent à la représentativité, qui veillent à au risque d'usurpation du pouvoir. Ça a été aussi un moment de convergence de beaucoup de préoccupations, qu'elles soient syndicales, écologistes, féministes, antiracistes. Donc ça a été un moment important de convergence des luttes, y compris avec des incompréhensions ou des paradoxes. C'est-à-dire Frédéric Lordon, qui est quand même un des tenants du souverainisme économique et d'un étatisme extrêmement fort, qui se retrouve au milieu des libertaires venant prôner la démocratie directe. Il y avait un aspect un peu burlesque, mais ça participait d'une ébullition à la fois militante et intellectuelle intéressante. Alors après, la difficulté de tous les moments d'effervescence de cet ordre-là, c'est leur capacité à s'inscrire dans la durée sans que ça soit vécu comme un échec. C'est la capacité aussi à obtenir satisfaction sur un certain nombre de revendications. Et c'est vrai que la revendication principale, elle était imposante, qui était le retrait de la loi El Khomri. Et la mobilisation n'y est pas parvenue.
Alors, on aurait eu bien d'autres choses à dire, notamment sur Nuit Debout et bien d'autres thèmes à explorer. Mais le temps passe vite en votre compagnie, Lilian Mathieu. Je recommande donc fortement à nos auditeurs d'aller lire vos ouvrages, d'aller vous écouter aussi, puisque vous étiez le 25 octobre dernier à la Villa Gilet pour une table ronde intitulée « Vers une démocratie réelle, quelle perspective pour l'Europe ?» qu'on peut réécouter en ligne. Merci à vous pour cette discussion.
Merci.
Et on finit sur les clashs pour les remerciements. Merci à Félix qui a brillamment assuré la régie pendant ce direct. Merci à Louise des Médiations Philosophiques qui m'a aidée pour la préparation de cette émission. Les Médiations Philosophiques qui, je le rappelle, sont nos partenaires dans le cadre d'Indiscipline. Vous pourrez retrouver toutes les références citées dans l'émission sur transistor.fr. Vous pourrez également la commenter et la partager sur les réseaux sociaux. Quant à moi, c'était sans doute ma dernière émission en direct sur les ondes des Transistors. Alors j'en profite pour dire merci à la meilleure web radio du monde, en toute objectivité évidemment. Bon vent à elle, bon vent à vous, chers auditeurs, et merci pour ces 4 belles années radiophoniques.
Ces 4 années radiophoniques qui te remercient, Céline. Tu as connu Transistor pendant la moitié de sa vie, et je peux dire que toutes les équipes ont été particulièrement heureuses et reconnaissantes de tout ce que tu as pu nous apporter. Je crois que tu nous quittes pour de magnifiques horizons, alors nous en sommes très heureux. Merci pour cette émission en tout cas, et merci à Lilian Mathieu pour sa présence. Nous allons maintenant passer au cinéma, mais avant je vous rappelle que dans 30 minutes commence la soirée raclette du DSM SSSSH en cafette. N'hésitez pas à vous y rendre, ce sera bien. C'est d'étoiles plein les yeux ?
Tout à fait.